à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibour avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire, ce mercredi 9 novembre au soir, une édition spéciale sur les élections demi-mandat aux États-Unis. Nous ferons le point sur les différents résultats. Les démocrates ont mieux résisté à la vague républicaine annoncée qui n'a pas eu lieu. Le Maryland, État frontalier de Washington, a élu son premier gouverneur noir. Les démocrates ont remporté un siège déterminant pour le contrôle du Sénat avec la victoire de John Fetterman en Pennsylvanie. À l'international, le président français Emmanuel Macron a confirmé la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Bien entendu, rendez-vous également avec la page des sports dans un peu plus de 10 minutes. Mais d'abord, je vous propose d'ouvrir cette édition spéciale donc sur les élections demi-mandat aux États-Unis. Ici aux États-Unis, les électeurs se sont rendus aux urnes hier mardi pour décider du contrôle du Congrès américain. Mais le décompte des voix est toujours en cours et de nombreuses courses sont encore trop serrées pour des projections de victoire dans l'un ou l'autre camp. Plusieurs heures après la fermeture des bureaux de vote, il n'est toujours pas clair si les démocrates conserveront leur mince majorité à la Chambre basse et au Sénat ou si les républicains prendront le contrôle. Plus de détails dans ce reportage de Catherine Gibson qui est repris par Chérubin Gabidorsil.
Les Américains votaient ce 8 novembre sur la direction que prendra leur pays au cours des deux prochaines années, choisissant s'il était temps de confier le pouvoir législatif aux républicains ou si le président Joe Biden continuerait d'avoir le soutien d'un Congrès démocrate. Mary Crooks est employée retraitée de l'éducation.
And then you have...
Et puis, il y a ces juges de la Cour suprême nommés par les républicains qui nous privent de nos droits. Je ne peux pas. J'ai vécu dans ce pays toute ma vie et c'est effrayant pour moi en ce moment. Ce qui se passe, c'est effrayant.
À Las Vegas, l'électrice Robin Robbie n'a pas caché son soutien pour le Parti républicain.
Je voulais voter pour plus de conservateurs parce que je suis conservatrice. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais sortir voter. Je vote tout le temps, donc ce n'est pas nouveau.
Plus d'un tiers du Sénat américain et toute la Chambre des représentants étaient en jeu cette année. Les républicains n'avaient besoin de gagner qu'un siège supplémentaire au Sénat pour surmonter la faible majorité des démocrates. Ces derniers ont subi une défaite précoce en Floride, où la députée Val Demings n'a pas réussi à battre le sénateur républicain Marco Rubio.
Quand vous voyez les résultats à travers ce pays, c'est de cela qu'il s'agit. Les gens qui font la grandeur de ce pays ont été oubliés.
Mais à la mi-journée mercredi, le contrôle du Sénat était encore incertain. En Géorgie, Raphaël Warnock et Herschel Walker semblaient destinés à s'affronter dans un second tour le 6 décembre, aucun des deux n'ayant remporté plus de 50% des suffrages, comme l'exige cet État. Contrairement aux prédictions des sondages, la vague rouge propulsée par les candidats pro-Trump au Parti républicain ne s'est pas matérialisée, bien que le parti ait eu de bons résultats, comme par exemple dans l'Ohio où Tim Ryan, le démocrate, a perdu face à J.D. Vance.
Je promets à tous mes amis qui seront au Sénat, à tous mes amis qui seront à la capitale de l'État. Nous avons besoin d'un meilleur leadership à Washington D.C. Et c'est exactement ce pourquoi je promets de me battre chaque jour.
La victoire en Pennsylvanie du démocrate John Fetterman lors d'une soirée extrêmement tendue marquée par un laborieux dépouillement des suffrages offrait à M. Biden l'espoir de conserver le contrôle de cette chambre où les républicains avaient jusqu'ici un léger avantage dans les sondages. Historiquement, le parti au pouvoir perd les élections de mi-mandat, donc la performance des républicains n'est pas surprenante, surtout à la chambre basse. Néanmoins, le succès des démocrates va certainement faire l'objet de beaucoup de commentaires dans les jours et semaines à venir.
Alors, comment se sont comportés les candidats soutenus par l'ancien président Donald Trump? Les résultats sont mitigés. Nous avons de la VOA Mike O'Sullivan qui fait le point. Le récit est de Michel Joseph.
L'écrivain et investisseur en capital risk, J.D. Vance, soutenu par Donald Trump, a remporté un siège de sénateur dans l'Ohio face au démocrate Tim Ryan. En Pennsylvanie, le démocrate Josh Shapiro s'est imposé dans la course au poste de gouverneur face au candidat soutenu par Trump, Doug Mastriano. La sénatrice démocrate du New Hampshire, Maggie Hassan, a repoussé le défi de Don Baldock, soutenu par Trump, qui a concédé sa défaite hier soir.
Et je suis honoré d'avoir eu l'opportunité de représenter le Parti républicain dans la course au Sénat américain, ici dans le New Hampshire.
Dans la course au Sénat en Pennsylvanie, très suivie, le républicain Mehmet Oz, un célèbre médecin soutenu par Trump, a perdu contre le démocrate John Fetterman, qui avait reçu l'aide de l'ancien président Barack Obama et du président Joe Biden pendant sa campagne. L'Arizona est un autre État disputé. Carrie Lake, soutenue par Trump, y a affronté la démocrate Carrie Hobbs pour le poste de gouverneur. Blake Masters, soutenue par Trump, a abrigué le siège de sénateur occupé par l'ancien astronaute Mark Kelly, un démocrate. Certains bureaux de vote y ont connu des problèmes, notamment à Phoenix. Bill Gates, président du Conseil des superviseurs du comté de Maricopa.
Les gens y vont et ils essaient de faire passer le bulletin dans cette tabulatrice. Peut-être qu'une fois sur cinq environ, ces bulletins ne passent pas.
Il a ajouté que ces bulletins seront comptés à la main, ce que le républicain Carrie Lake a trouvé suspect. Deux républicains qui ont des relations froides avec Trump ont été réélus, le gouverneur Chris Sununu du New Hampshire et le gouverneur Brian Kemp de Géorgie. Donald Trump a soutenu une contestation infructueuse de la primaire républicaine contre Kemp qui a provoqué la colère de l'ancien président en rejetant l'affirmation selon laquelle Trump aurait gagné la Géorgie en 2020. Parmi les autres courses qui n'ont pas encore été décidées ce matin, celle au poste de gouverneur dans le Michigan, où la démocrate sortante Gretchen Whitmer affronte Tudor Dixon, soutenu par Trump. En Géorgie, la course au Sénat oppose le démocrate sortant Raphael Warnock à l'ancienne star du football américain Herschel Walker, soutenu par Trump. Le dépouillement va déterminer la composition du Congrès et l'orientation future des deux partis.
En Pennsylvanie, à présent, les démocrates ont remporté une victoire importante dans la bataille pour le contrôle du Sénat. Le gouverneur adjoint John Fetterman, pourtant victime d'un AVC il y a quelques mois, eh bien, le monsieur Fetterman a battu le docteur Mehmet Oz, le candidat républicain soutenu par Donald Trump. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint Mohamed Kamara, professeur à Philadelphie, en Pennsylvanie.
Écoutez, il y a pas beaucoup de doutes parce que depuis le départ, John Fetterman était un des favoris de conseil de cette course. Mais malheureusement, vers le mois d'août ou le mois de juillet, il a eu un AVC. Ça a remis sa candidature un peu en doute. Et après, après la décision de la Cour suprême sur la décision de l'avortement, Roe versus Wade, qui avait galvanisé les démocrates de beaucoup. Et après, on a eu des petits soucis d'économie avec les conflits qui se passent dans le monde. Et puis après, le post-Covid, et l'issue est partie de l'avortement à l'économie. Donc, dans ces faits, Dr. Haas a eu un petit momentum, mais je pense que la Pennsylvanie, les démocrates en Pennsylvanie sont sortis en masse et ont voté pour Fetterman.
Lors du débat face au Dr. Haas, son adversaire, certains l'avaient vu un peu affaibli. Cela n'a pas empêché les électeurs de Pennsylvanie de voter pour lui. Qu'est-ce qui fait sa force, selon vous?
Non, mais c'est quelqu'un qui est très progressif dans ses vues. d'abord pour commencer, parce que c'est quelqu'un qui a été maire, qui a été lieutenant-gouverneur, qui est gouverneur, comme c'est en français, gouverneur adjoint, et qui a beaucoup œuvré pour, comment ça s'appelle, pour une Amérique beaucoup plus démocratique et une Amérique beaucoup plus égalitarienne. Et avec le, comment s'appelle, avec les problèmes de masse incarcération et tout ce genre de choses, c'est quelqu'un qui a des vues vraiment progressives en allant dans cette direction. Donc ça, généralement, ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens de, comment s'appelle, qui vivent dans les grandes villes, parce que les grandes villes sont considérées beaucoup plus progressives que les banlieues ou les comment s'appelle, les campagnes.
Comment est-ce que vous expliquez cela? On sait que Donald Trump, qui soutenait le Dr Oz, est quand même assez populaire dans les zones rurales.
La Pennsylvanie, les plus grandes concentrations de population sont dans les grandes villes, comme Philadelphie, et comment ça s'appelle, Harrisburg, et Pittsburgh. Ça, ce sont les plus grandes concentrations de population. Et maintenant, avec tout ça, ça ne veut pas dire que quand vous gagnez les grandes villes suffisent, mais c'est quelqu'un qui vient lui-même d'une petite ville, qui a un certain appel et un certain appeal aux gens qui vivent dans les endroits ruraux. Son AVC était considéré comme un handicap, mais les gens comprennent que les gens n'ont pas de contrôle sur les conditions médicales.
C'était Mohamed Camara, professeur à Philadelphie, en Pennsylvanie. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette édition spéciale consacrée aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Je vous en rappelle les points essentiels. Les démocrates ont mieux résisté à la vague républicaine annoncée, mais qui n'a pas eu lieu. Le Maryland, État frontalier de Washington, a élu son premier gouverneur noir. Les démocrates ont remporté un siège déterminant pour le contrôle du Sénat avec la victoire de M. Fetterman en Pennsylvanie. Maintenant, la page sport présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous.
Football, Sadio Mané incertain pour le mondial.
Oui, le Sénégal retient son souffle pour sa mégastar. Sadio Mané, touché au péroné droit, l'attaquant de 30 ans, ne jouera pas samedi avec le Bayern Munich. À 11 jours du coup d'envoi du mondial 2022, l'incertitude plane donc sur sa présence. En l'attente d'examens complémentaires, le communiqué du Bayern tombé en milieu d'après-midi n'a pas levé les incertitudes. Après la blessure de Mané mardi soir sur la pelouse de l'Allianz Arena contre le Werder Bremen, mené 6-1 par le Bayern. Le journal L'Équipe est lui catégorique. Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du Monde, écrit L'Équipe, qui rapporte que l'ancien joueur de Liverpool souffre en réalité d'un tendon et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, doit annoncer ce vendredi sa liste de joueurs qui iront au Qatar. Et comme je le disais au début, au Sénégal, on retient son souffle. On écoute ses réactions recueillies dans les rues de Dakar par notre correspondant Seydina Abagé.
Vous savez, Sadio, c'est quelqu'un que on souhaite qu'il sera là et participer à la phase finale de la Coupe du Monde. Donc, on veut juste être au courant de sa blessure. Ben, apparemment, on croise les doigts et on souhaite qu'il sera là, Inch'Allah.
Mondial toujours, le joueur numéro 1 de la Corée du Sud confirme sa participation.
Oui, l'attaquant sud-coréen de Tottenham, Son Heung-min, annonce sur son compte Instagram qu'il participerait bien au Mondial 2022 qui débute ce 20 novembre malgré sa fracture orbitaire contre Marseille en Ligue des Champions au début de ce mois.
Mondial 2022, groupe F, le vétéran Luka Modric sera la tête de file de la sélection croate.
Oui, le sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalic, a dévoilé ce mercredi la liste des joueurs qui représenteront ce petit pays au Mondial 2022, avec l'espoir que l'équipe amenée par le vétéran Luka Modric du Real Madrid puisse aller loin au Qatar. En septembre, la Croatie s'est qualifiée parmi les 4 meilleures équipes en Ligue des Nations.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Et vous êtes bien à l'écoute d'une édition spéciale sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. Le décompte se poursuit donc au lendemain de ces élections de mi-mandat, mais les premières tendances laissent présager une progression des républicains à la Chambre des représentants et un Sénat où démocrates et républicains sont au coude à coude. Pour analyser ces premières tendances et les enjeux de ces élections, Mohamed Oumfa a joint à New York le professeur Mohamed Mbodge, analyste politique et enseignant au Manhattan College.
Le premier résultat, c'est que il n'y a pas la marée rouge républicaine qu'on attendait, qui donnait une majorité absolue au Sénat et à la Chambre. Et il semble que les démocrates peuvent être capables de retenir au moins l'égalité au Sénat et la majorité républicaine à la Chambre va être beaucoup plus faible. La deuxième chose, c'est que Biden, malgré un taux de favorabilité très bas, et se présente un peu comme un rock. Les candidats soutenus par Trump, d'une manière générale, n'ont pas fait les résultats qu'on attendait d'eux. Et donc, la vie sera très compliquée pour les républicains à partir de maintenant.
Mais les républicains semblent tout de même en progression au niveau de la Chambre des représentants. Comment expliquez-vous cela?
Il y a une sorte de tradition ou de tendance qui fait que le parti au pouvoir perd toujours les élections de mi-mandat et en particulier à la Chambre. Les projections il y a 2 semaines, 3 semaines parlaient d'une majorité absolue, mais ce n'est pas tellement cette victoire-là qu'on attendait. C'est vrai que les républicains, en faisant campagne sur l'inflation, sur l'élévation du taux de criminalité, etc., ont certainement attiré des électeurs et les ont mobilisés. Il y a une sorte d'enthousiasme républicain face à ce qu'on peut appeler un moindre enthousiasme, voire une certaine apathie de la part des électeurs du Parti démocrate.
Dans la configuration où les républicains prennent le contrôle de la Chambre et les démocrates contrôlent le Sénat, quelles seraient les implications pour le président Joe Biden?
Paradoxalement, Biden peut avoir une plus grande marge de manœuvre pour négocier, en particulier avec les représentants et quelques sénateurs, car le parti républicain va être tiraillé et tiré vers sa droite, voire l'extrême droite. Donc, il y a des factions qui vont se créer à l'intérieur du parti républicain. Certains vont essayer de soutenir Mike Pence, certains vont essayer de soutenir Ron DeSantis, certains vont essayer de soutenir Trump, etc.
Quel impact pourrait avoir l'issue de cette élection sur la présidentielle annoncée de 2024?
Je crois que Biden a montré que c'est un bon candidat, éventuellement, alors qu'il y a un mois, presque tout le monde le sacrifiait et semble qu'aujourd'hui, il soit l'homme de la situation, en tout cas pour l'instant, pour les démocrates. Donc c'est un candidat sérieux qui est capable de se maintenir.
Et pour ce qui est de Donald Trump?
Donald Trump risque de se présenter, va se présenter, mais le Parti républicain, définitivement, va se retrouver de toute façon avec de fortes personnalités au centre. Et de ce point de vue-là, Trump va avoir moins de pouvoir sur le Parti républicain qu'il n'en a eu ces dernières années. Je pense qu'on va assister au déclin de son pouvoir et même s'il se présente comme président, ce sera un candidat diminué.
C'était le professeur Mohamed Mbodge, analyste politique et enseignant au Manhattan College. La Géorgie, où le pasteur Raphaël Warnock, sénateur sortant, affrontait l'ancienne star du football américain, Herschel Walker, demeure aussi fortement indécise à l'heure où je vous parle. Si aucun de ces deux candidats afro-américains ne venait à dépasser les 50% des suffrages, les règles électorales de Géorgie imposeraient une nouvelle élection dans 4 semaines. Eddie Sanko, Joe a joint à Atlanta le fondateur de Smart Network, Guy Mukulu.
En ce qui concerne les élections en Georgia, ça s'est situé à plusieurs niveaux, mais le plus important, c'est les deux postes clés qui ont retenu l'attention de l'opinion publique. Le premier, c'est celui relatif gouvernorat d'Atlanta, qui était jusqu'alors détenu par le républicain Brian Kemp, et il a eu la chance de maintenir ce poste. En dépit de divergences qui s'étaient manifestées lors de l'élection de 2020, où il n'a pas eu accédé à la requête de son mentor, le président Trump, qui avait voulu, en ce qui concerne les décomptes de voix ou la reprise des comptes de voix, qu'il puisse accéder à cela. Donc, en dépit de ces divergences, il a récupéré son poste. Mais la bataille reste très serrée en ce qui concerne le poste du sénateur. Il y a deux concurrents qui sont en lice. Il y a le sortant Warnock, le révérend Warnock, Walker.
Ils sont tous noirs.
Ils sont coude à coude. Oui, Herschel Walker. Les deux sont coude à coude et sûrement ça promet un deuxième tour qui pourra être déterminant dans le choix en date du 6 décembre plus précisément.
Mais qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas eu une vague rouge, c'est-à-dire une vague républicaine, comme certains l'ont annoncé dans des sondages et dans les médias?
Oui, cette tendance est observée non seulement à Georgia, mais aussi dans la plupart des États. Bon, je peux dire que les élections de 2020 ont laissé quelques traces dans l'opinion publique, où les faits qui s'étaient déroulés, des matchs de violence, n'ont pas vraiment accroché la plupart des électeurs. Et à cela, il faut ajouter aussi l'incertitude d'un changement brutal qui peut s'observer à mi-mandat.
C'était Guy Mukulu, fondateur de Smart Network. Il était joint à Atlanta. Dans le Maryland à présent, le démocrate Wes Moore est entré dans l'histoire en devenant le premier gouverneur africain-américain de cet État voisin de la capitale fédérale, Washington DC. Wes Moore a battu le républicain Dan Cox, soutenu par l'ancien président Donald Trump. Pour parler de l'élection du nouveau gouverneur du Maryland, Jean-Roger Bion a joint Edward Abba, conseiller municipal à Hyattsville, une ville du Maryland.
Il faut rappeler que l'élection de M. Moore, c'est une élection historique, pas seulement dans le Maryland, mais aussi dans les États-Unis en général. Il est le premier noir à être élu au niveau du gouvernorat du Maryland, mais le troisième noir à être gouverneur dans les États-Unis. Donc vous voyez un peu la portée historique de sa victoire. Il faut rappeler aussi que M. Moore n'est pas un politicien de carrière. C'est sa première tentative à être élu, mais il est un motivational speaker, comme on le dit ici. Donc, il a ce charisme et c'est un homme, un entrepreneur, un philanthrope. Donc, son message a répercuté au niveau des résidents du Maryland.
Alors, le précédent gouverneur du Maryland était un républicain qui est resté 8 ans à la barre. Qu'est-ce qui a joué en faveur des démocrates?
Je pense que c'est un message de réconciliation, d'apaisement. Le républicain qui a quitté Hogan, il avait compris cela. Et c'est d'ailleurs l'un des rares républicains qui n'avait pas supporté M. Trump dans tout ce qu'il a eu à faire, dans ses prises de décision antidémocratiques, s'il faut le dire ainsi. Donc cela a joué un peu à la faveur de M. Hogan. Donc c'est ce message-là que Moore a véhiculé et que les gens du Maryland voulaient réellement un démocrate qui allait non seulement continuer à défendre les valeurs démocratiques pour l'État du Maryland. Il y a le cas de l'avortement qui est un débat houleux présentement dans plusieurs États. Donc c'est peur que ces avancées au niveau de l'État du Maryland soient un peu perdues. Il fallait un démocrate là pour maintenir cela. Mais aussi, il y a les cas du travail des enfants qui doivent avoir l'éducation nécessaire, donc l'investissement dans l'éducation. Donc, il y a tous ces messages qui, aujourd'hui, sont des messages importants ou bien des sujets importants pour les Marylandais.
Est-ce que cette victoire pour le gouvernorat dans le Maryland donne un nouvel élan aux démocrates au plan national quand on sait qu'on leur prédisait une claque pour les élections de mi-mandat?
C'est toujours bien d'avoir un gouvernorat de son côté parce que ça facilite le travail du président qui est là au niveau fédéral. Nous sommes en train de voir un peu au niveau du Congrès, le Sénat, la Chambre des représentants. Ça a tendance à pointer que les démocrates, nous allons perdre la Chambre des représentants. Au Sénat, il y a encore la possibilité qu'on maintienne le Sénat, donc on risque d'avoir un peu un Congrès divisé. On a de l'espoir quand même. Je pense que la grande victoire que nous avons remportée hier, nous en tant que démocrates, c'est au niveau de la Pennsylvanie où le démocrate a remporté face aux républicains au niveau du Sénat. Et ce poste était préalablement détenu par les républicains. Donc c'est une victoire allant dans la bonne direction, même si on a eu d'autres États où les démocrates ont perdu.
C'était Edouard Abba, conseiller municipal à Hyattsville, dans le Maryland. Nous arrivons à la fin de cette édition spéciale consacrée aux élections de mi-mandat ici aux États-Unis. Les Républicains sont en passe ce mercredi de prendre le contrôle de la Chambre des représentants d'une courte tête au lendemain de ces élections qui confirment la profonde polarisation de l'Amérique mais où les démocrates de Joe Biden ont mieux résisté que prévu. La vague rouge des la couleur des Républicains annoncée n'a pas eu lieu hier, privant sans doute Donald Trump de quoi propulser ses velléités de reconquête de la Maison Blanche. Des heures après la fermeture des bureaux de vote, plusieurs scrutins décisifs et disputés n'ont pas encore livré leurs résultats, comme en Arizona ou dans le Nevada. Une chambre basse contrôlée par les Républicains se positionnerait de manière à défaire le programme du président Biden sur le changement climatique, par exemple. Au Sénat, où les démocrates détenaient une très mince majorité avant l'élection, il faudra sûrement plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant qu'une majorité ne se décide, et donc l'agenda politique aux États-Unis pour les deux prochaines années. Voilà, retour à l'actualité internationale à présent. Le président français Emmanuel Macron a confirmé aujourd'hui officiellement la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane. La nouvelle stratégie de la France en Afrique sera finalisée d'ici 6 mois après consultation avec ses partenaires sur le continent. C'est ce qu'a précisé Monsieur Macron. Le dispositif militaire français au Sahel comprend environ 3000 militaires au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Au Tchad, Succès Masra et Max Louangar, les deux leaders des principaux mouvements d'opposition politique, ont annoncé devoir se cacher par crainte pour leur sécurité 3 semaines après une manifestation de leur mouvement réprimé dans le sang. Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, a déclaré avoir dû traverser clandestinement la frontière terrestre vers un autre pays, car il est, selon lui, recherché par la garde présidentielle. Monsieur Longar, coordinateur et porte-parole de la principale plateforme d'opposition, Wakit Tama, a assuré être entré en clandestinité quelque part dans le pays pour échapper à une arrestation. La détention de l'opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux, Rekia Madougou, est arbitraire et elle doit être libérée immédiatement, juge un groupe de travail de l'ONU. Détenue depuis mars 2021 dans le sud-est du Bénin, Madame Madougou a été condamnée en décembre 2021 à 20 ans de prison pour des faits de terrorisme, étant accusée d'avoir financé l'assassinat de personnalités politiques pour empêcher la tenue de l'élection présidentielle, des faits qu'elle conteste. En République démocratique du Congo, 3 personnes ont été tuées et un centre de santé incendié la nuit dernière lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF dans l'Est. Un médecin a été kidnappé et la pharmacie du centre de santé pillée lors de cette attaque survenue dans le village de Kabacha, à une dizaine de kilomètres de la ville de Beni, dans le Nord Kivu. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute la rédaction qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui.